Bonjour, bienvenue à cette traditionnelle heure des questions orales ici au Parlement jurassien. On va débuter avec la question orale du PLR de Pont-à-Pitre.
Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers collègues, ma question a trait en fait à un sujet que j'avais abordé dans une motion déposée l'année passée, une motion qui traitait en fait d'une problématique liée à une interprétation que je qualifiais d'injuste de la part des services de l'État s'agissant de l'installation de nouvelles conduites sous les routes communales ou cantonales. Cette motion n'avait pas été acceptée. Certes, j'en ai pris acte. Toutefois, j'ai constaté dernièrement que dans le cadre d'un assainissement routier cantonal qui a nécessité là aussi la pose de conduites souterraines, il n'y a pas eu de plan d'équipement ou de plan de route qui a été demandé. Alors rassurez-vous, je ne vais surtout pas demander à ce que l'État fasse comme les communes, mais plutôt que les communes puissent faire comme l'État, c'est-à-dire de se passer de cette exigence qui coûte plusieurs dizaines de milliers de francs pour les collectivités locales. Sachant que le gouvernement, dans le cadre de sa réponse, a évoqué la révision de la loi sur la circulation et l'entretien routier, la LCER, et que les communes allaient y être associées, ma question est la suivante. Où en est cette modification de la LCER et quand est-ce que les communes pourront faire valoir leurs intérêts? Je vous remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre, David Herré.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, monsieur le député, vous parlez là de la loi sur les constructions et l'entretien des routes, qui est l'objet actuellement d'une révision au sein du service des infrastructures. Et la réponse est assez simple. Je peux vous confirmer que la révision avance bien et que si tout se passe comme prévu, le Parlement sera saisi du dossier dans le courant de l'année 2019.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Gabriel Warhol est satisfait. Pour la deuxième question orale, j'invite à la tribune monsieur le député Michel Chauffat.
Michel Chauffat, député et PDC de Basse-Alène.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, vous êtes certainement nombreux à avoir reçu du courrier du collectif Terre d'accueil. En ce qui me concerne, étonnamment, je l'ai reçu trois fois. Le dit courrier, ou les dits courriers, précise ce qui suit. Le Jura est le seul canton roman qui refuse systématiquement l'emploi aux personnes demandeuses d'asile chez nous, alors que la loi suisse permet de travailler des trois mois sur le sol helvétique. Pour quelles raisons? Les personnes titulaires d'un permis F ou B rencontrent énormément de difficultés à trouver un emploi, notamment en raison du manque d'informations aux employeurs. Je demande donc au gouvernement de bien vouloir nous préciser ce qu'il en est réellement.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Nathalie Bartolo.
Nathalie Bartolo, ministre de l'Intérieur.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, de manière générale, le gouvernement est d'accord avec le fond du courrier qui vous a été adressé et qui a été adressé, je dirais, à toute une partie de cet hémicycle, si pas à tout le monde. Il est en effet important pour les personnes ressortissantes du domaine de l'asile de pouvoir accéder au marché de l'emploi et c'est un facteur d'intégration. De manière générale, c'est la JAM qui s'occupe de ce mandat en collaboration avec les services de l'État et la JAM et les services de l'État mettent en œuvre des mesures nécessaires qui permettront à ces personnes de remplir à des critères d'employabilité. Des efforts importants ont été déployés depuis 2016, notamment avec la création d'un poste de responsable de l'intégration professionnelle qui accompagne les personnes au bénéfice de permis B ou F. Et dès l'année prochaine, vous savez aussi qu'il y aura la mise en œuvre de l'agenda intégration qui entrera en vigueur et qui fixe au canton des objectifs clairs, à savoir que lorsqu'une personne est arrivée dans un canton, elle a 7 ans en fait, pour trouver une activité professionnelle, ce qui obligera bien évidemment les cantons à fournir de nombreux efforts en la matière. Ceci dit, plus spécifiquement, il faut distinguer en fonction des statuts des personnes et notamment faire la différence entre les demandeurs d'asile avec un permis N et les personnes dont la demande d'asile a été traitée qui vont demeurer dans les cantons plusieurs années, soit les personnes qui disposent d'un permis F ou d'un permis B. Ces personnes n'ont pas complètement le même statut. S'agissant des requérants d'asile, le canton du Jura applique l'ordre de priorité fixé par la loi sur les étrangers, selon laquelle les Suisses, les ressortissants de l'Union européenne, les titulaires d'un permis C, B et F sont prioritaires pour l'accès aux places de travail. Dès lors, il est vrai qu'un requérant au bénéfice d'un permis N, qui a passé 3 mois sur le territoire suisse, peut, en théorie, accéder à une place sur le marché de l'emploi. Mais en fait, tout employeur qui l'engagerait devrait prouver préalablement qu'il n'a trouvé personne aux conditions que j'ai indiquées, c'est-à-dire un ressortissant de l'Union européenne, un titulaire d'un permis C, un titulaire d'un permis B ou encore d'un permis R. Donc vous voyez que la marge de manœuvre est relativement ténue. Toutefois, le canton du Jura octroie des dérogations pour ces personnes qui sont au bénéfice donc d'un permis N lorsque l'on voit que la personne pourrait par exemple entamer une formation et que cette personne sera certainement encore très probablement dans le canton du Jura à l'issue de la formation. De manière générale, dès l'entrée en vigueur de la restructuration du domaine de l'asile, dès l'année prochaine, donc, le canton du Jura accueillera nettement moins de personnes titulaires d'un permis N, vu que le tri de ces personnes se fera dans les centres de premier accueil, et ainsi cette thématique perdra certainement en importance. En conclusion, les préoccupations du collectif Terre d'accueil sont tout à fait légitimes. Toutefois, la collaboration positive entre la JAM et les services de l'État dans le cadre du nouvel accord sur l'intégration des personnes ressortant du domaine de l'asile va bien évidemment faciliter l'intégration de ces personnes de manière durable sur le marché de l'emploi en densifiant notamment les contacts avec les entreprises.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Michel Chauffat est satisfait. Pour la troisième question orale, je cède la parole à Monsieur le député Pierre Parietti.
Pierre Parietti, député PLR de Port-en-Truy.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, lors du traitement du budget, nous avons été informés que des mesures seraient prises en ce qui concerne l'analyse énergétique d'un certain nombre d'immeubles de la République et canton du Jura, et cela sur une période d'environ 3 ans où l'on parlait d'une cinquantaine d'immeubles qui seraient l'objet de l'analyse sur la base des certificats CECB. Sachant qu'une vingtaine de mandataires sont actifs sur le territoire cantonal jurassien pour ce type de prestations et que le coût global estimé va vraisemblablement dépasser les 150 000 francs pour l'ensemble de cette analyse, vu la complexité d'un certain nombre d'immeubles les plus importants, nous souhaiterions savoir quelle sera la procédure qui sera retenue par le gouvernement ou par les responsables en vue d'adjudication soit groupée pour l'ensemble, soit partielle pour un ou plusieurs immeubles par adjudication. Je remercie le gouvernement pour sa prochaine réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre de l'Environnement.
Monsieur le député, effectivement, l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'énergie imposera à l'État d'établir des certificats, les CECB, certificats énergie du bâtiment, pour les bâtiments qui appartiennent à l'État. Il y a environ 46 bâtiments qui sont concernés à la connaissance du service, dont 12 ont déjà été traités, donc ont déjà reçu le certificat durant l'année 2018. Les procédures utilisées, puisque c'est là votre question, c'est une procédure gré à gré. Le montant moyen d'un CECB est de l'ordre de 2000 francs, 2500 francs. Et donc actuellement, sur ces 12 bâtiments réalisés, par exemple en 2018, il y a eu 5 entreprises qui ont été mandatées. Et ce sont parfois des entreprises qui sont liées déjà au bâtiment par le programme Energo, et qui permettent donc, de par cette synergie, d'avoir des coûts plus bas de CECB. Pour l'année 2019, il est prévu de traiter 20 bâtiments. En 2020, le reste, environ une quinzaine. Et les procédures seront bien évidemment faites toujours de gré à gré, en veillant à ce qu'il y ait une répartition juste et équitable entre les différents acteurs du domaine qui sont actifs dans le canton du Jura.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Pierre Parietti est satisfait. Pour la quatrième question orale, j'invite à la tribune Monsieur le député Yvan Godin.
Yvan Godin, député des Verts du Bémont.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame et Messieurs les ministres, dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier, un terrible incendie a causé la mort de 7 personnes dans le centre-ville de Soleure. Les victimes, 4 adultes et 3 enfants en bas âge, sont des requérants d'asile érythréens et éthiopiens qui avaient été placés dans cet immeuble par les autorités cantonales soleroises. Une semaine après cette tragédie, un journal suisse-allemand pointait du doigt l'assouplissement décidé en 2015 par les cantons à travers l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce, des normes de protection incendie dans l'hébergement temporaire de requérants d'asile. Ainsi, différentes dérogations aux normes incendies sont admises dans le but de faciliter aux cantons la recherche de lieux d'hébergement pour faire face à l'afflux de réfugiés, et ce, au détriment de la sécurité, ce que cet organe intercantonal ne cache d'ailleurs pas. Dans sa circulaire de 2015, il est ainsi écrit « L'AIET prend acte du fait qu'avec ces dérogations, l'objectif de protection visé dans les prescriptions de protection incendie 2015 pour la protection des personnes n'est plus garanti dans la même ampleur. » Prévu initialement pour 2 ans, l'AIET a décidé le 3 mars 2017 de prolonger jusqu'à la fin 2019 les dérogations aux prescriptions de protection incendie 2015 actuellement en vigueur pour l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile. Ces éléments interpellent profondément, d'autant plus depuis la tragédie de Soleure, même si à ce stade, aucun lien ne peut être fait entre cet incendie et l'assouplissement des normes de protection incendie. Nous nous interrogeons bien évidemment sur la pratique en vigueur dans le canton du Jura. Ma question est donc la suivante. Le Jura a-t-il adopté les dérogations aux normes incendie décidées par l'AIET? Autrement dit, l'objectif de protection des personnes en termes de risque incendie est-il garanti dans la même ampleur dans les hébergements jurassiens pour requérants d'asile? Je remercie par avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre, Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, la tragédie que nous avons vécue à Soleure nous interpelle toutes et tous, évidemment. Il s'agit ici quand même de préciser que ces requérants d'asile étaient bel et bien logés dans des appartements où ils cohabitaient avec des citoyens suisses comme les autres, donc il n'y avait pas des normes particulières en lien avec ces appartements pour requérants d'asile à Soleure. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, toujours à travers la presse, parce que je n'ai pas d'autres informations, il semblerait que ce soit une personne qui se soit endormie la cigarette au bec qui serait la cause de cet incendie. Donc n'y voyez là aucun lien avec l'assouplissement des normes auxquelles vous avez fait allusion dans votre question. Il est vrai que ces normes ont été introduites non pas par les techniciens, non pas par les... Enfin, c'est les SEA qui doivent les mettre en place, c'est juste, mais c'est sous la pression politique, et en particulier du canton de Zurich, qui, à un moment donné, un afflux très fort de requérants d'asile, devait faire face, dans l'urgence, à l'accueil, dans des lieux qui n'étaient pas forcément destinés, a priori, à cela. C'est notamment dans les abris de protection civile. Et c'est dans ce cadre-là, uniquement dans ce cadre-là, que ces normes ont été appliquées. Elles ne l'ont pas été dans le canton du Jura, puisque nous n'avons pas eu besoin de recourir à des abris de protection civile pour accueillir ces requérants d'asile. Mais les hébergements qui ont été mis en place à Saint-Léger, à Courfèvre, à Montfaucon, à Courfèvre et à Porrentruy, je crois, correspondent tout à fait aux normes habituelles en matière de protection incendie, donc il n'y a absolument aucune dérogation. Ça n'empêchera pas que peut-être un jour il y aura un incendie dans ces lieux, mais en tout cas ce ne sera pas à cause des normes qui auraient été allégées. Dans le Jura, nous n'avons effectivement pas eu recours à des hébergements temporaires, hein, parce que ces centres dans les abris de protection civile étaient bien à considérer comme de l'hébergement d'urgence et temporaire, le temps de trouver d'autres solutions dans les différents cantons.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Yvan Godat est satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à madame la députée Géraldine Beuchat.
La cinquième question orale de la matinée, Géraldine Beuchat, députée PCSI de Glovelier.
Madame la Présidente, chers collègues, madame et messieurs les ministres, les annonces se suivent et se ressemblent avec la Poste suisse. Cette dernière vient d'informer le Jura qu'elle a fait de nouvelles découvertes dans sa comptabilité. Le remboursement annoncé est un beau cadeau de Noël pour le canton, les villes de Porrentruy et de Lémont, ainsi que quelques communes jurassiennes. Mais sommes-nous au bout de nos surprises avec le mode de gestion de la Poste ? Avouons que l'on puisse ressentir un manque de confiance et ne pas être certain que tout ait été découvert. Ces annonces de remboursement semblent faciles alors qu'aucune responsabilité n'est recherchée. Les faits ne sont pas anodins et auraient pu passer totalement inaperçus
tant les mystères de la comptabilité de la Poste semblent épais et inappropriés pour une entreprise de cette taille. Le gouvernement peut-il nous informer sur la suite qui sera donnée face à ces nouvelles révélations ? Je le remercie pour sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre, David Herré.
David Herré, ministre de l'Environnement.
Madame la députée, concernant le volet de carte postale et ces nouvelles révélations qui ont effectivement permis de découvrir des montants qui seront donc restitués au canton du Jura et aux localités, enfin aux communes liées au trafic local à Delémont et à Port-en-Truy, il y a deux volets qui vont donc découler de ces nouvelles révélations. Le premier volet d'ordre financier, donc au niveau du canton du Jura, il nous faudra évaluer avec les partenaires, en tout cas les deux communes, le mode de remboursement par rapport à la clé de répartition, à la clé de subventionnement qui était en vigueur à l'époque. Et au niveau du volet des responsabilités, eh bien là, ce n'est pas le gouvernement ou le canton qui est acteur en la matière, mais bien évidemment que c'est au niveau fédéral, puisque le dossier a été transmis à la police fédérale, à la FEDPOL, qui va donc le joindre à l'enquête globale qui est en cours. Et au niveau des responsabilités, c'est donc au niveau de la FEDPOL qu'elles seront définies et que les conclusions seront tirées. Nous ne sommes dans ce dossier au niveau pénal qu'observateurs attentifs de la situation.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Géraldine Dechat est satisfaite. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Madame la députée Erika Henquin.
Erika Henquin, députée des Verts de Courgenay.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour avoir accès à la réponse du gouvernement à la consultation sur la protection des eaux, où le Conseil fédéral proposait par ordonnance d'augmenter massivement le seuil de plus de 20 pesticides, il fallait s'adresser au service de l'État jurassien. Or, dans la plupart des cantons, notamment romands, les réponses des exécutifs peuvent être consultées sur les sites Internet respectifs. Afin que les jurassiennes et les jurassiens et tous les autres intéressés aient accès aux positions de notre exécutif aux consultations fédérales, le gouvernement peut-il nous renseigner sur la date à laquelle cela sera possible pour nous. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herré.
David Herré, ministre de l'Environnement.
Madame la députée, vous mettez là le doigt sur effectivement un potentiel d'amélioration en termes de transparence face aux décisions ou aux prises de position du gouvernement. Et suite à deux projets qui ont déjà été mis en place, le gouvernement sans papier qui est effectif, le dossier électronique qui est en cours de déploiement dans l'ensemble de l'administration, il y a un troisième projet qui sera déployé dès janvier 2019. Il s'appelle e-affaires, donc les affaires électroniques. Et cela permettra effectivement de mettre à disposition du public les réponses du gouvernement aux différentes consultations. Et donc dès janvier 2019, une phase test sera lancée qui permettra de tester l'application telle qu'elle est définie actuellement. Et ensuite, dans les semaines, voire les mois qui suivent, nous espérons que le projet puisse être déployé en réel et que donc les consultations seront à ce moment-là disponibles au public et en particulier aux députés jurassiens.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Erika Henquin est satisfaite. Pour la septième question, j'invite à la tribune Monsieur le député Nicolas Maître.
Nicolas Maître, député socialiste d'Épouvillère.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, la réouverture de la ligne Bienne-Belfort est une excellente nouvelle pour la population jurassienne et nos voisins et amis français. La volonté commune des autorités jurassiennes et françaises de rapprocher encore davantage nos deux pays par le rétablissement de cette ligne ferroviaire s'est fort heureusement concrétisée grâce à de gros efforts financiers, certes, mais aussi à la persévérance de nombreux acteurs techniques et politiques qui n'ont jamais abandonné le projet de redonner vie à ce lien ferroviaire. Tout le monde est satisfait et l'attractivité des régions desservies par les nouveaux trains gagnent en visibilité et en attractivité. Ces éléments ont été rappelés par différents intervenants le 6 décembre dernier à Bel, lors de la journée d'inauguration de la réouverture de cette ligne ferroviaire mythique pour les Jurassiens. À cette occasion, la ténacité des différents partenaires régionaux suisses et français qui se sont battus pour arriver à ce résultat a été relevée et les personnes qui avaient participé de loin ou de près à cette concrétisation de ce beau projet ont été remerciées. Certes, La liste exhaustive des invités était difficile à établir. Tant d'acteurs, politiciens, chefs de service ou gens de l'ombre s'étant succédé durant toutes les années qu'aura duré ce projet jusqu'à sa concrétisation. Les moyens logistiques et financiers mis à disposition pour l'inauguration n'ont pas dû constituer un frein pour organiser cette fête dignement. Alors, pour quelles raisons cette retenue incompréhensible dans le choix des invités ? Si avant même la manifestation, on pouvait déjà regretter la non-invitation de quelques personnes ayant joué un rôle important pour la réussite finale de ce projet, comme Alain Boyat, Jean Bourcard ou encore Michel Béguin et l'ancien ministre François Mertena, c'est aussi le fait qu'une grande partie des membres de l'association de revitalisation de la ligne d'Elbeufort était absent qui est à déplorer. Présent à cette inauguration en tant que représentant communal de Claude Hudoux, je fus personnellement très étonné de ses absences. Bien qu'il fût rappelé lors des diverses allocutions le rôle majeur de cette association de bénévoles qui avait joué dans le terrain lors de travaux d'entretien, de défrichage et d'élagage, il n'en demeure pas moins, renseignement pris, que la majorité de ces gens de l'ombre n'avaient jamais reçu d'invitation.
Monsieur le député, je vous prie de poser votre question, s'il vous plaît.
Pourtant réouverte aussi grâce à leur indéfectible motivation. D'où ma question. Comment le gouvernement peut-il expliquer ses oublis et ses mises à l'écart, signe d'une grave indélicatesse et d'un flagrant délit de reconnaissance, alors que, pour les invités côté jurassien, il lui revenait certainement le soin d'en dresser la liste.
Je vous prie de conclure, monsieur
le député. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre de l'Environnement.
Voilà, monsieur le député, on sent l'approche des fêtes de fin d'année, puisque les questions orales commencent à avoir trait aux apéritifs et aux autres banquets organisés par les différents acteurs de la région. Concernant votre question précisément, sachez que c'est la SNCF Réseau qui a envoyé les invitations. 400 personnes ont été invitées, donc c'est un nombre quand même assez impressionnant de personnes. Parmi ces personnes, il y a effectivement eu des bénévoles qui ont été invités, des bénévoles qui, à l'époque, avaient défriché la ligne. En tout cas, ils étaient présents pour quelques-uns d'entre eux. Je ne sais pas si tous ont été invités ou pas. C'est du ressort de la SNCF Réseau de veiller à ces choses-là. Mais je peux vous dire que les personnes présentes, en tout cas les bénévoles qui ont, à l'époque, défriché la ligne et qui ont maintenu finalement l'espoir de réouverture qui s'est concrétisée, ces bénévoles ont été remerciés précisément par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Madame Dufay, ainsi que par moi-même à la tribune qui a été proposée à elle. Donc ils n'ont pas été oubliés dans les discours officiels, et je pense que ça a été fort apprécié par ces personnes.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Nicolas Maître n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune Monsieur le député Stéphane Brosi.
Stéphane Brosi, député PLR de Plaigne, pour la 8e question orale de la matinée.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question porte sur les futures festivités du 40e anniversaire de la République et canton du Jura qui se dérouleront, faut-il le rappeler, en 2019. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de participer aux différentes manifestations que le gouvernement a décidé de mettre pour célébrer dignement ce jubilé. Celui-ci souhaite également associer la jeunesse jurassienne à cet événement en organisant une journée scolaire avec la participation de toutes les écoles primaires et secondaires. En ce sens, le but étant de réunir un maximum d'élèves, un bref courriel a été récemment adressé à toutes les commissions et directions d'école concernées pour annoncer et faire réserver la date du 21 juin 2019. Cette annonce a provoqué des réactions négatives d'une partie du corps enseignant via leur syndicat. Vu le caractère exceptionnel de la manifestation et que la date retenue est un jour d'école, on peut s'interroger sur ces dissentiments. Mais laissons la polémique de côté. Pouvons-nous en dire plus sur cette manifestation ? Le gouvernement peut-il nous donner des précisions sur l'organisation et objectifs d'une telle journée ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Martial Courtais.
Martial Courtais, ministre de l'Éducation.
Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Vous demandez les objectifs, Monsieur le député. Effectivement, le but pour cette journée, puisqu'il y aura beaucoup d'autres choses comprises dans les festivités, mais pour cette journée de la jeunesse, donc vivre un événement culturel et pédagogique. Donc le but est que la jeunesse jurassienne participe à cet événement et surtout peut-être se rafraîchisse la mémoire concernant sa propre histoire. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans ce Parlement au mois de janvier, puisqu'il est question d'une motion qui viendra donc en janvier, je le disais, sur un support de cours pour l'ensemble des enseignants. Concernant la participation des écoles, il y a maintenant plusieurs mois, le gouvernement a décidé d'un rassemblement sur les mêmes bases en fait, que ce qui s'est fait en 1989. Je dois dire que les quelques lignes auxquelles vous faites allusion, qui sont parvenues par mail aux écoles, afin donc, vous le disiez, de bloquer cette date du 21 juin 2019, n'étaient peut-être pas adéquates ou au moins floues. Et ceci dû au fait que l'organisateur n'avait pas encore compulsé les archives d'organisation de 1989. Si je reprends justement ceci, ce qui s'est fait donc il y a 30 ans, un courrier d'invitation avait été adressé aux écoles, en date du 22 mars 1989, afin de recueillir les inscriptions de l'ensemble des classes. Et c'était effectivement une initiative qu'on trouve judicieuse, puisqu'elle a permis d'organiser ceci de façon idoine. Le gouvernement procédera donc de la même façon cette fois-ci. Donc, les écoles recevront ces prochains mois un courrier d'invitation afin de pouvoir remplir les inscriptions et organiser notamment tout ce qui est transport et l'ensemble de la journée. Journée sur laquelle travaillent actuellement donc les organisateurs du 40e, dans le but, et je me permets d'insister là-dessus pour la fin de mon propos, dans le but de faire prendre conscience à nos jeunes justement de ces notions d'appartenance et d'identité. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ? Monsieur le Député Stéphane Croisy est satisfait. Pour la 9e question, je donne la parole à Monsieur le Député Philippe Rotet.
Philippe Rotet, député UDC de Delémont.
Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame, Messieurs les Ministres, voici quelques années, les Jurassiens ont refusé l'impôt à la source concernant les frontaliers. Malheureusement, aujourd'hui, on doit constater que l'État français doit 24 millions de francs au canton du Jura, impôt qui devait être payé voici 6 mois déjà. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il y a du retard et qui pénalise fortement les communes jurassiennes. En dépit des contacts pris tant auprès de la Confédération que de Bercy, rien n'a été débloqué. Monsieur le ministre, en votre qualité de président de la CDF, allez-vous entreprendre une démarche globale avec les autres cantons frontaliers qui connaissent les mêmes problèmes? Et dans cet état d'esprit, ne pourrait-on pas introduire un intérêt moratoire? Je remercie par avance le gouvernement pour ses réponses.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Thuillard.
Charles Thuillard, ministre des Finances.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, je ne vais pas refaire l'historique de ce dossier puisque vous avez eu l'occasion d'avoir un long entretien téléphonique avec mon collègue Vaudois pensant qu'il vous donnerait des informations plus précises que le ministre jurassien des Finances. Par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, président de la conférence suisse des directeurs des Finances sur ce sujet. Mais enfin, chacun va puiser à la source où il veut, pas seulement les impôts mais aussi ses informations, pensant que, évidemment, l'herbe est toujours plus verte dans le verger d'à côté. Cela dit, comme nous nous entendons très bien entre ministre des Finances et en particulier avec mon collègue Broulis, il a pu vous donner exactement les mêmes informations que j'aurais pu vous donner à cette tribune. Cela dit, aussi, pour introduire, nous examinons effectivement les cantons frontaliers, nous examinons la possibilité de demander à Berne de négocier un avenant, parce que nous sommes convaincus que nous ne devons pas dénoncer l'accord, parce que la situation future serait certainement pire que celle d'aujourd'hui, mais de négocier un avenant qui permettrait soit de facturer des acomptes, soit de calculer un intérêt moratoire, voire peut-être aussi, et ça c'est une discussion que nous devrons avoir avec la Confédération, de faire en sorte que la Confédération procède à une avance, voire une compensation d'argent qu'elle doit à la France, par exemple, lorsqu'elle verse à la France une part de la cotisation pour l'assurance chômage des travailleurs frontaliers en particulier, eh bien faire une compensation pour éviter ces retards qui sont effectivement tout à fait regrettables pour l'ensemble des collectivités publiques, pas seulement les communes, mais aussi le canton. Donc nous nous y attelons, nous avons fait plusieurs démarches, comme vous l'avez rappelé, et peut-être que vous pourriez aussi nous aider en donnant un coup de fil à votre camarade UDC, ministre des Finances fédérales, qui aurait peut-être une oreille peut-être plus attentive à la vôtre qu'à celle des ministres des Finances des cantons.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Philippe Rotet est partiellement satisfait. Pour la 10e question, je donne la parole à monsieur le député Rémi Meury.
Rémi Meury, député du CSPOP de Delémont.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, ma question sera simple et vous le verrez en faisant l'effort de ne formuler aucune hypothèse personnelle quant à la réponse qui pourrait s'imposer. Madame et Messieurs les ministres, comment se fait-il qu'un message envoyé à l'administration le 13 décembre 2018, puis le 14 décembre aux enseignants des écoles obligatoires, et enfin hier le 18 décembre aux enseignants du Cégep, portant sur des enjeux financiers importants, 45 millions à trouver pour boucler le budget 2020, portant aussi sur des options de gestion fondamentales selon les pistes qui sont déjà dessinées et proposées par le gouvernement, comment se fait-il donc que ce message n'ait pas été pour le moins annoncé à la CGF qui se réunissait le 12 décembre, la veille du premier envoi, et plus largement, comment se fait-il que les députés aient pris connaissance par des voies détournées du contenu de ce document hautement sensible sur lequel ils auront à se prononcer sans doute ?
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, président du gouvernement jurassien.
Effectivement, vous relevez date par date les envois qui ont été faits par rapport à l'information qui a été faite à la fonction publique. Et effectivement, ces informations ont été faites ces derniers jours. Et dans le but, bien évidemment, comme cela a été expliqué, de faire part à la fonction publique, finalement, aux employés de l'État, des enjeux qui attendent le canton du Jura pour les prochaines années, dans le but également de, bien évidemment, pouvoir contribuer avec la fonction publique à la recherche de solutions. Votre question porte de savoir pourquoi est-ce que la CGF n'a pas été informée préalablement. Eh bien, je ne peux pas vous répondre précisément à cette question, puisque je n'étais pas en CGF ce jour-là, mais par contre, je peux vous rassurer, dans l'optique que le gouvernement souhaitait informer en premier les employés de l'État et immédiatement derrière le Parlement au travers de la CGF, au travers des députés. Et nous estimions qu'il était préférable d'informer les personnes avec lesquelles nous souhaitons travailler étroitement dans un premier temps, les employés de l'État. Et c'est peut-être pour cette raison-là que la CGF n'a pas eu l'information préalablement à la fonction publique. Mais ce n'est qu'une histoire de jour, donc je ne pense pas qu'il faille se faire du souci par rapport à ces petites dates qui ont été peut-être anticipées pour les uns et retardées pour les autres.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Rémi Meury n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, je donne la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Madame la Présidente, chers collègues, madame, messieurs les ministres, le gouvernement a annoncé à la fonction publique que les perspectives budgétaires n'étaient pas bonnes et qu'il fallait trouver, comme l'a dit notre collègue Rémi Meury, 45 millions pour le budget 2020. Pour justifier ce montant, le président du gouvernement expliquait par voie de presse notamment que les coûts de la santé vont augmenter 9 millions et les charges du domaine social de 7 millions. Plus surprenant, il estime que les coûts du personnel vont augmenter en une année de 10 millions. Cette estimation demande des explications. En effet, comment, en une année, les coûts du personnel vont augmenter de 10 millions ? N'y a-t-il donc aucune volonté du gouvernement d'agir sur les engagements du personnel dans cette période financière catastrophique ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
À nouveau, David Herret, président du gouvernement jurassien.
Monsieur le député, effectivement, c'est le chiffre de 10 millions qui a été évalué par le gouvernement pour les perspectives d'augmentation de charges salariales au niveau de la fonction publique. Cela, c'est une perspective à 2 ans, donc peut-être ça a été mal précisé. C'est une perspective à 2 ans et qui implique, qui regroupe finalement un montant équivalent à 1,8% de la masse salariale. Il faut savoir que dans la loi sur le personnel de l'État, il est prévu une annuité automatique, qui est donc assimilable à une augmentation de salaire automatique, qui représente à elle seule 1,3% de la masse salariale. Donc dans ces 10 millions, il y a déjà à peu près les 2/3 du montant qui est lié à la loi sur le personnel qui prévoit une annuité automatique. Et ensuite, il y a eu une estimation qui a été faite avec une perspective d'inflation à 0,5%, peut-être moins, peut-être plus, peut-être quelques postes, et on arrive à ces 10 millions, donc c'est assez facilement explicable de façon arithmétique.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est satisfait. Pour la 12e question, je cède la parole à monsieur le député Raoul Yagui.
Raoul Yagui, député indépendant de Basse-Cour.
Madame la Présidente, madame, messieurs les ministres, chers collègues, hier après-midi, pour contrôler la chose, j'ai, avec ma voiture, fait le trajet de Lémont à la gare TGV de Mérou. Cela m'a pris en tout et pour tout 42 minutes. le même trajet en train en tenant compte des correspondances et notamment les 20 minutes d'attente à la gare TGV, il faut compter 1h30, soit le double. Mon voisin ce matin m'a d'ailleurs même fait remarquer que à Glovelier, il y avait 43 minutes d'attente pour les francs-montagnards. Le gouvernement est-il satisfait, partiellement satisfait ou pas satisfait de cette situation? Et entend-il intervenir pour améliorer la chose auprès des CFF au vu des sommes engagées dans ce dossier? Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre, David Herret.
On retrouve David Herret, ministre de l'Environnement.
Monsieur le député, je vous répondrai que le gouvernement est satisfait, partiellement satisfait, puisque l'offre actuellement qui est donc à disposition des utilisateurs entre Delémont et Mérou, respectivement entre Bienne et Belfort-Ville, et donc découle d'un accord, d'une négociation qui a eu lieu à l'ambassade de Suisse en France à Paris, entre les différents acteurs français et suisses. Et dans une négociation, vous le savez, il y a toujours chacun qui fait un pas envers l'autre. Donc si nous aurions souhaité une offre plus dense, nous ne l'avons pas obtenue, mais nous sommes quand même satisfaits puisque les trains circulent à partir du 9 décembre sur cette ligne, permettre de raccorder le Coteau du Jura au réseau TGV. Et peut-être par rapport à votre expérience personnelle, vous êtes allé à la gare de Mérou, vous dites-vous, hier après-midi. Alors j'ose supposer que vous n'êtes pas allé pour prendre le train en direction de Marseille qui partait à 17h34, ni celui qui partait en direction de Paris à 18h07, puisque dans ce cas-là, vous auriez dû partir à peu près aux heures de pointe. Et pour quitter le centre-ville de Delémont, il vous aurait fallu prévoir 5 à 10 minutes de marge, puisque pour arriver au Pré-Rose, il y a toujours un petit peu un engorgement, puis un engorgement à l'entrée du tunnel à Glovelier. Donc probablement que le train qui met 1h04 entre Delémont-Gare et Mérou TGV aurait été plus rapide que vous à cet horaire-là. Mais effectivement, aux horaires des heures creuses, la voiture est plus rapide. Mais je vous rappelle que dans la voiture, vous ne pouvez ni lire, ni manger, ni vous délaisser, ni vous reposer. Et là, il y a aussi un avantage, même si le temps est un peu plus long.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Une satisfaction, monsieur le député. Monsieur le député Raoul Yagui est partiellement satisfait. Pour la 13e question, je donne la parole à monsieur le député Quentin Haas.
Quentin Haas, député du PCSI de Cornouailles.
Madame la présidente, chers collègues, madame, messieurs les ministres. Dernièrement, nous apprenions par voie de presse que l'hôpital du Jura faisait partie des hôpitaux suisses possédant un taux de réadmission considéré comme anormalement élevé, selon une étude de l'ANQ. Bien que de nombreux établissements hospitaliers de l'arc jurassien soient concernés, ce résultat interpelle. L'étude n'a pas permis de clarifier les raisons exactes de cette augmentation du nombre de réadmissions, mais des pistes sont évoquées. Dans tous les cas, il semble clair qu'un taux important de réadmission impacte négativement les coûts de la santé et, par voie de fait, plombe les factures d'assurance maladie des Jurassiens. Dans un document publié lundi matin, le gouvernement jurassien a défini les attentes du canton relatives à l'hôpital du Jura. Dans ce contexte, le gouvernement entend-il tenter de faire la lumière sur les causes de ce taux de réadmission anormalement élevé, afin de le corriger et d'améliorer la visibilité et la qualité des soins promulgués par l'hôpital du Jura? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Guerbert.
Jacques Guerbert, ministre de la Santé.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, les enquêtes de l'ANQ, l'Association nationale de la qualité dans les hôpitaux, relèvent 5 indicateurs dont, effectivement, monsieur le député, la réadmission évitable. Il s'agit d'enquêtes menées sur un mois spécifique. Il peut donc évidemment y avoir des effets liés à l'activité spécifique du mois observé. Les chiffres 2016 de l'hôpital du Jura sont effectivement légèrement supérieurs aux chiffres attendus. Il apparaît aussi que les années précédentes étaient parfaitement normales, pour ne pas dire bonnes pour l'hôpital du Jura. Il faut donc être extrêmement attentif lorsque l'on tire des conclusions sur une observation mensuelle. Après l'analyse des chiffres reçus par l'Association nationale de la qualité et par les spécialistes qualité de l'hôpital du Jura, il apparaît que ce dépassement apparent est uniquement imputable au transfert de cas psychiatriques facturés en DRG qui n'étaient auparavant pas comptabilisés. Il s'agit donc d'un effet purement statistique dû au transfert psychiatrique, Une demande de correction de l'hôpital sera adressée à l'Association nationale La Qualité. Vous l'avez mentionné, dans sa stratégie pour l'hôpital du Jura, l'État vise en effet des prestations de qualité afin d'atteindre une part de marché proche du 100% pour les prestations de base. Il est donc essentiel que les causes de tels écarts soient identifiées rapidement et d'éventuelles mesures prises également rapidement. Pour cette situation, les explications, comme je viens de vous le mentionner, ont été trouvées et une demande de correction sera adressée à l'AMQ. Service de la santé suit attentivement ces indicateurs. Il y en a d'autres, monsieur le député, également ceux de l'Office fédéral de la santé publique ou encore les enquêtes de satisfaction des patients ainsi que les volumes des cas qui donnent aussi des indications sur la qualité des prestations. Une attention particulière est donc apportée par l'État, mais surtout par l'hôpital du Jura lui-même, à la qualité de ses prestations.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, quant à un, c'est satisfait. Pour la 14e question, j'invite à la tribune monsieur le député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député du PCSI de Montfaucon.
Madame la présidente, chers collègues, madame et messieurs les ministres. Suite à l'Assemblée communale de Seignelay-Légier, une polémique est née entre l'État, la commune et la direction du Centre de loisirs des Franches-Montagnes, CL. La bisbille concerne le budget du chef-lieu Taignan et plus particulièrement le montant de plus de 300 000 francs prévu pour la couverture du déficit du même CL. D'une déclaration tonitruante du ministre des Finances du canton du Jura, qui donne la leçon au maire Loitchou en pointant du doigt l'ampleur du degré de couverture du déficit, à l'intervention du directeur du CL qui rallie au final le ministre à ses explications, en considérant qu'au contraire, le CL permettrait à la commune de Seignelay-Légier de réaliser un bénéfice grâce aux apports directs et indirects, chacun peut facilement saisir que nous nageons en plein paradoxe. Au demeurant, nos deux pontes, ministre et directeur, nous ont gratifié d'un communiqué de presse commun que l'on peine curieusement à retrouver dans la rubrique dédiée sur le site internet du canton. En tant que contribuable d'une commune membre, je vous livre ma conclusion. Les communes du district assument leur part du déficit, mais sans que les apports permettent de rentabiliser l'entier du montant consacré, au contraire du chef-lieu franc-montagnard qui bénéficierait, lui, d'un retour sur investissement positif. Voilà pour l'essentiel de cet imbroglio. En guise de question, je demande au gouvernement s'il est conscient que son intervention, complètement à côté de la plaque, risque de mettre le feu aux poudres en instaurant un climat délétère dans l'entente qui prévaut entre les communes taignonnes dans le délicat dossier de gestion du CL. Je ne remercie pas le gouvernement pour son intervention, mais bien pour l'explication qu'il tentera d'y apporter.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, vous savez qu'il n'est pas dans mes habitudes de monter à la tribune pour répondre aux questions orales avec des documents, mais si je crois que ça vaut la peine quand même pour vous renvoyer. Je pourrais même encore vous donner lecture de l'échange d'emails que nous avons eu avec le député Hénin tout à l'heure, qui n'était pas tout à fait si mécontent que ça que le ministre ait jeté un pavé dans la mare, disait-il. Donc je suis vraiment surpris quand même de sa conclusion qui dit qu'il ne remercie pas le gouvernement de son intervention dans ce dossier. Par ailleurs, il n'y a absolument aucune polémique entre le ministre et le maire de Seignelay-Légier. Nous avons eu l'occasion de nous parler à plusieurs reprises. Nous avons effectivement convenu d'un certain nombre d'éléments et ce n'est pas du tout mon rôle et pas du tout mon intention de donner des leçons à qui que ce soit, et en tout cas pas aux maires des communes, quand bien même peut-être certains auraient besoin d'en avoir, mais ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon intention non plus, parce que je crois qu'on a tous assez de peine à faire ce qu'on peut dans la fonction que nous exerçons les uns et les autres. Si vous avez bien lu le communiqué de presse auquel vous faites allusion, qui a paru in extenso dans le journal franc-montagnard, donc j'imagine que vous y êtes abonné et que vous l'avez lu. Moi, je suis abonné, je le lis tout le temps, parfois avec des grandes surprises, mais enfin, je le lis quand même. Vous aurez vu que les propos qui sont donnés ou laissés à l'origine du directeur du centre de loisirs sont ses propos à lui et que je ne les partage pas forcément. Je dis simplement qu'il y a un manque de transparence dans les coûts réels du centre de loisirs. Pourquoi ? Parce que si vous reprenez budget de la commune de Seignelay-Légier 2018, il vous faut attendre la page 25 pour voir qu'il y a une participation au déficit de ce centre à hauteur de 326 000 francs pour l'année 2018 budget. Montfaucon, 31 087 francs hein, pour la même année. Donc, à partir de là, si le directeur du centre de loisirs prétend que son centre est bénéficiaire ou profitable pour la commune de Seine-Légier, eh bien, un simple quidam qui vient lire ce document, il ne le voit pas du tout. Et c'est là qu'à mon avis, il y a un problème. Et en tant que commune affiliée au centre, vous devriez relire la convention qui vous lie, parce qu'à l'article 3, il est dit clairement « Le coût des prestations offertes à la population sera mis en évidence dans les factures annuelles afin de donner une image réelle de l'activité économique du centre de loisirs ». Je vous laisse le soin d'aller vérifier sur les factures que vous recevez si cet article 3 est effectivement respecté, auquel cas vous pourriez renseigner précisément vos citoyens, parce que Seine-Légier, c'est une commune qui, c'est vrai, supporte une large part du déficit du centre de loisirs, en tout cas comptablement. Après, est-ce que les prestations gratuites ou réduites permettent de compenser ce déficit ? J'en sais rien, moi je n'ai pas les comptes du centre de loisirs puisque c'est une SA, mais en l'occurrence ce n'est pas retranscrit dans les comptes des communes, de telle sorte que le citoyen lambda est incapable de se forger une opinion là-dessus. Je suis certain que le MCH2 apportera un éclaircissement et ce débat que nous avons ici aura au moins eu le mérite d'apporter, de mettre en lumière un certain nombre d'éléments et notamment de vous renvoyer vraiment à cet article 3 de la Convention qui devrait inciter les communes. Et je vous invite vraiment, monsieur le député, qui par ailleurs est maire d'une commune des Franches-Montagnes, à demander la prochaine fois, si vous ne les avez pas spontanément, des explications par rapport à cet article 3 de la Convention. Ici, il s'agit maintenant surtout d'apaiser la situation, de renouer avec le dialogue entre les différents partenaires. Et mon objectif, en co-signant ce communiqué de presse avec M. Wiemann, n'avait rien d'autre que cet objectif-là, c'était de calmer le jeu, parce que pour moi, il fallait que les gens se mettent autour de la table pour discuter et sortir quelque chose qui soit satisfaisant en toute transparence pour l'ensemble des citoyens des Franches-Montagnes. En rappelant que le centre de loisirs des Franches-Montagnes est un atout important pour le développement de la région, que ce soit des Franches-Montagnes comme du canton du Jura.
Merci, monsieur le ministre. Juste dans le timing, votre appréciation, monsieur le député. Monsieur le député Vincent Yana est partiellement satisfait. Pour la 15e question orale, monsieur le député Jean-Pierre Michler.
15e et avant-dernière question orale de Jean-Pierre Michler, député UDC de Develier.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, l'impôt sur les gains immobiliers. Chaque fois qu'un immeuble est proche de propriétaire, le vendeur doit s'acquitter de l'impôt sur les gains immobiliers pour autant que le gain se monte à au moins 4 000 francs. Afin de garantir le paiement de celui-ci, les notaires ont l'obligation d'inscrire une hypothèque légale qui prime sur tous les autres droits de gage. Les notaires prélèvent aussi sur le prix de vente une certaine somme d'argent destinée au paiement de cet impôt. Jusque-là, il n'y aurait pas de problème. Mais quand le vendeur doit attendre plus de 2 voire 3 ans pour recevoir son avis de taxation, cela devient plus compliqué. Parfois, les personnes vendant leur immeuble étant âgées, il arrive que celles-ci décèdent avant le paiement de l'impôt. Il est ainsi reporté sur les héritiers, ce qui complique encore la situation. Actuellement, des montants très importants représentant plusieurs millions de francs sont bloqués chez les notaires en attente d'une décision de taxation. Cet argent ne profite à personne, même pas à l'économie jurassienne qui en aurait un urgent besoin. Augmenter le personnel de l'État serait bien sûr la solution de facilité. Mais vu les perspectives budgétaires pessimistes pour les prochaines années, quelles autres mesures le gouvernement pense-t-il prendre pour améliorer cette situation ? Merci pour la réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, la description que vous faites de la situation, monsieur Michler, est tout à fait juste. Vous serez surpris que je vous réponde comme ça, sans doute, mais elle est tout à fait juste. Et c'est vrai que nous avons pas mal de retard dans le traitement de ces dossiers, raison pour laquelle, monsieur le député, je compte sur vous pour tout à l'heure, dans le budget, accepter la création d'un poste supplémentaire qui sera affecté spécifiquement au traitement de ces dossiers, parce que nous avons plus de 2 ans de retard dans le traitement de ces dossiers. En ce qui concerne les responsabilités, on peut se les renvoyer d'un à l'autre, mais il y a aussi souvent du temps d'attente quand il s'agit de demander des pièces supplémentaires qui qui manquent dans les dossiers, mais c'est vrai que le gouvernement est conscient de cette situation et il veut essayer d'y remédier en augmentant les moyens mis à disposition. Actuellement, il y a une personne et une secrétaire qui s'occupent alors que le nombre de dossiers a évolué de manière très très sensible ces 10 dernières années sans que nous ayons adapté les effectifs du personnel pour les traiter. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de possibilité de faire autrement, si ce n'est que nous avons essayé de raccourcir le temps de la procédure en essayant de travailler en parallèle entre les notaires et les impôts. Actuellement, nous attendons que les impôts aient fini de calculer pour que les notaires aient transmis l'acte définitif pour que les impôts commencent leur procédure. Et nous souhaitons démarrer la procédure au niveau des impôts sur la base d'actes déposés provisoirement par les notaires sans que ceux-ci soient encore inscrits au registre foncier, ce qui va nous faire gagner, on l'espère, 3 ou 4 mois déjà dans la procédure. Mais après, il appartiendra quand même de veiller à ce que les dossiers soient complets. Et vous savez que dans ce domaine-là, il faut rechercher pas mal de documents dans les années antérieures si on veut vraiment déduire ces éléments-là. Donc, pour le moment, nous avons ces deux pistes, une augmentation d'effectifs parce qu'on n'y coupe pas, et puis c'est d'essayer de raccourcir la procédure ou le temps de procédure entre les notaires et les impôts.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Jean-Pierre Michelet est satisfait. Pour la dernière question orale, je donne la parole à Madame la députée Pauline Queulot.
16e et dernière, donc, question orale de Pauline Queulot, députée indépendante de Saint-Bray.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues. Récemment, suite à une recommandation de l'OMS, l'Office mondial de la santé, la Confédération suisse a abaissé le taux maximal admissible d'arsenic dans l'eau potable de 50 microgrammes à 10 microgrammes par litre. Ça signifie que dès le 1er janvier 2019, l'eau qui dépassera ce seuil sera considérée comme impropre à la consommation. Certaines communes suisses, Valaisanne notamment, sont obligées de fournir des bouteilles d'eau à leurs habitants en attendant de trouver une solution pour baisser le taux d'arsenic dans leur eau. S'il revient aux communes de contrôler la qualité de leur eau, dans le Jura, existe-t-il un contrôle supracommunal qui permette de s'assurer que les communes procèdent bien à des contrôles et, cas échéant, le gouvernement jurassien peut-il rassurer la population quant à la teneur en arsenic dans l'eau jurassienne ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herré.
David Herré, ministre de l'Environnement.
Madame la députée, votre question est difficile à répondre puisque je n'ai pas les paramètres physiques et chimiques de l'eau jurassienne comme vous le questionnez. Par contre, ce que je sais, c'est que les fournisseurs d'eau, que ce soit les communes ou les syndicats comme le CEF, le SEDE, le SEPE, etc., sont tenus, selon la législation en vigueur, de contrôler l'eau potable de façon régulière et de communiquer les résultats aux consommateurs. Donc j'imagine que dans toutes les communes, cela se fait. Dans le cas où cela ne se ferait pas, il faut peut-être leur demander qu'ils communiquent ces informations. En tous les cas, l'Office de l'environnement n'est pas l'organe de contrôle, mais c'est l'organe de haute surveillance des communes, des syndicats. Et l'Office donc veille à ce que le travail soit fait. Si vous avez connaissance que peut-être des contrôles ne sont pas effectués, peut-être adressez-vous aux fournisseurs en question ou à l'Office de l'environnement. Concernant le paramètre chimique dont vous parlez, l'arsenic, je n'ai pas connaissance du fait s'il est contrôlé ou pas dans les mesures qui sont faites par les fournisseurs d'eau. Et je vous propose de vous adresser à votre fournisseur d'eau pour connaître finalement le détail des analyses chimiques qui sont faites, cas échéant à l'Office de l'environnement qui volontiers vous répondra.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Pauline Queulot est partiellement satisfaite. Nous sommes arrivés au terme des questions orales. Toutes les questions ont pu être posées.
C'est donc la fin de cette heure des questions orales ici au Parlement jurassien. Vous pouvez suivre évidemment toute l'actualité de cette session chargée au Parlement jurassien sur le site rfj.ch et dans nos principales éditions. Très bonne journée.